Ou bonsoir, ou bonne nuit.
on a déjà enregistré un épisode, on est fatigué.
Non, ça va, promis, ça va être de qualité quand même.
De qualité, avec EY à la fin.
Sinon, ça c'est le pas. Dernier épisode de Buffy.
Effectivement.
Qu'est-ce qu'on va... Ah là là.
C'est incroyable. Il va falloir qu'on fasse le bilan de cette aventure incroyable qu'a été Buffy. Je crois que c'est l'aventure qui a été la plus incroyable par rapport à Wound of Stress et Charmed.
Ah ouais, bah déjà Wound of Stress, merci, mais moi un trauma. J'étais vraiment en prise de tête constante avec mille histoires. J'en ai reparlé hier avec des gens avec qui je parlais de ce podcast.
Incroyable.
Qui connaissaient pas ça, Wound of Stress, vraiment non. Il y a un gars, il fait, oh, je regarderai pas un, bien un épisode, je dis, non.
Faut pas. Non. Ou alors je le fais qu'avec une loupe. Qui gomme tous les défauts. Genre vraiment, faut passer outre quoi. Genre, tu regardes juste pour le kiff de dire, oh, je regardais ça quand j'étais petit. Et voilà.
Ouais, même.
J'aimerais que si on a tenté ce truc là, mais ça a pas trop marché chez nous.
Non.
Bref, bienvenue pour le dernier épisode de Buffy.
Et oui, et je ferai pas le résumé parce que là, il y a des choses compliquées à dire alors que dans l'autre, c'était très facile. Donc j'ai réussi. Là, je sens qu'il y a plusieurs trucs que je vais me mélanger et que Amélie va faire tu t'es perdu, reviens et que oui, je vais me mettre perdu.
Ok.
Du coup, c'est Amélie qui va faire le résumé parce qu'elle fait ça très bien.
Merci, merci, merci. J'aimerais pour que la saison 2 de cette podcast, on continue à me passer de la poudre comme ça et de la pommade.
Oui,
ça sera contractuel.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça sera contractuel. Alors, comme notre tradition, très courte certes, mais quand même active depuis... deux séries le laisse présager. Nous avons regardé le dernier épisode de la dernière saison
et
de
oui.
Buffy. Alors, on a fait un choix délibéré, parce que, comme beaucoup de séries, le dernier épisode est souvent en deux parties. On a regardé que la deuxième partie. On a vraiment regardé le tout dernier épisode, donc l'épisode 22 de la saison 7, dont le titre m'échappe.
Je ne l'ai pas noté, car je note jamais les titres.
Voilà. Mais c'est pas grave, vous l'aurez en description.
Voilà,
donc vous savez. donc on a regardé cet épisode. Et alors c'est vrai qu'il s'est passé un peu de trucs quand même là. J'avoue, c'est un peu compliqué. Mais pour vous la faire courte, on va essayer de la faire courte. En gros, il y a un gros méchant qui s'appelle La Force. Et là moi je me dis, si t'as pas pompé un peu sur Star Wars, bon quand même.
Il y a La Force. Et La Source t'en charme.
Ouais, non, voilà. Je pense que La Force, on reste dans les noms de méchants un peu classiques, mais bref.
La Force.
La Force est là, et la Force est un grand grand méchant qui veut, vous l'aurez sans doute deviné, prendre le contrôle du monde et tuer tout le monde.
Voilà. Et mettre des démons et des méchants partout, comme...
tous les autres méchants.
Voilà, comme Sauron avec les orques.
Ouais.
Il y a un lien avec cette...
Oui, il y a un lien avec cette analogie, on y reviendra
on
plus tard.
On en parlera plus tard.
Mais en gros, la Force décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec Buffy et ses petits camarades qui commencent sérieusement à lui casser les bonbons. Donc, il se dit, bah écoutez, vous savez quoi, je vais faire une armée de super méchants. Donc il prépare une petite armée super méchants, là, ta-da-da-da-da. Et donc de son côté, Buffy et ses potes se disent de manière assez naturelle, et bah nous, on va préparer une armée de super gentils.
Voilà.
Et l'armée de super gentils, elle est composée donc de la clique habituelle de Buffy, donc Giles, Xander, Anya, Willow, Willow, sa nouvelle copine de Willow, parce que Tara est décédée entre-temps, et également tout un tas de jeunes filles qui sont des potentielles tueuses. Parce qu'on le rappelle, Buffy, c'est la tueuse de vampires. Chaque génération, il n'y a qu'une seule tueuse qui peut endosser ce rôle, et une fois que la précédente, elle meurt... La suivante s'active, en gros. C'est ça. C'est un peu comme un Nokia 3310. Vous l'avez laissé dans votre tiroir. Et un jour, il sera lu. Et ben voilà, c'est ça. Et en gros, Buffy a rassemblé tout un tas de tueuses de tous les continents et tout. Elle les a ramenées chez elle pour les former, pour les préparer, en fait, au futur combat. Et l'épisode tourne autour de ce combat final qui va avoir lieu entre les forces du bien et les forces du mal. Vu que c'est l'épisode final de la série... On revoit des têtes qu'on connaît. Angel, par exemple, fait une petite apparition, genre « Coucou, tiens, je te donne ce petit collier hyper utile. Un collier magique qui donne des pouvoirs à ton porteur. Voilà, voilà. Tu le donneras à qui tu veux. Bisous. » Et il se casse. Littéralement. C'est littéralement ça. Bisous. Hop, je m'en vais.
C'est ça.
On retrouve Spike qui, entre-temps, a chopé une âme, et donc est profondément et sincèrement amoureux de Buffy.
Il a chopé une âme.
Bah vraiment, c'est ça, hein, je suis désolée, mais... D'ailleurs, Angel nous fait un petit speech là-dessus en disant « Moi, j'avais une âme avant que ce soit cool.
» Moi d'abord, en fait. Hein.
C'est incroyable. Mais globalement, c'est ça, tout cet épisode présente... l'ultime préparation avant le combat final et le combat final. Donc au final, le fait de pas avoir vu l'épisode 21 avant celui-ci, ça nous a pas manqué trop, on s'en fichait un peu. Et là, on voit vraiment la fin de la fin. Sunnydale a été déserté par ses habitants. Il n'y a plus personne dans la ville à part Buffy, ses potes et les méchants. Et en gros... le combat final se passe, il y a plusieurs personnages qui sont blessés très grièvement, voire qui meurent pendant ce combat. On sent que c'est la fin de la série, quoi, qu'il y a des personnages qui peuvent mourir, c'est pas très grave. Ou en tout cas, ça, émotionnellement parlant, on ressent quelque chose, mais on s'en fiche un peu. Donc voilà, il y a des personnages qui vont mourir de manière héroïque pour rattraper des actions passées. Spike, clairement, c'est son cas. Il se sacrifie à la toute fin de l'épisode... En gros, il a le collier magique qui donne à son porteur plein de pouvoirs et il n'y a que lui qui peut refermer la bouche des enfers qui se situe sous Sunnydale. Donc, en dessous le lycée. Et donc, en fait, il ferme la bouche des enfers une fois pour toutes et il conclut l'histoire comme ça. Et évidemment, les forces du bien gagnent, hein, les forces du mal sont anéanties pour toujours et fin de l'histoire. Globalement, j'ai été très très rapidement, mais c'est à peu près ce qui se passe. Il y a un petit twist dans ce truc-là, et en fait, ce twist-là permet une résolution pour Buffy assez positive, parce que ça fait 6 ans, enfin 7 ans du coup, vu que c'est la saison 7, que ça lui trotte dans la tête un peu cette histoire, mais Buffy, on sait qu'être tueuse, c'était pas ce qu'elle voulait, et que c'était très compliqué pour elle d'être une tueuse, de pas pouvoir avoir une vie normale avec des potes et tout. Et donc, elle se rend compte à un moment... lorsqu'elle prépare le combat, que s'il n'y a que elle comme tueuse, ils ne pourront pas gagner.
Et ah donc... ouais, il est trop bien ce passage.
Ouais. Et elle demande à Willow, qui est devenue une sorcière très très puissante entre-temps, de faire quelque chose, c'est-à-dire d'activer les pouvoirs de la tueuse chez toutes les filles qu'elle a commencé à entraîner, qui étaient en dormance un peu. Et elle lui dit, bah voilà, active les pouvoirs des tueuses chez toutes ces filles-là, parce qu'en fait... ceux qui ont décidé qu'il n'y aurait qu'une seule tueuse par génération, c'est des vieux mecs, des vieux croutons qui sont morts il y a très longtemps, et eux ils ont dit bah voilà, il n'y aura qu'une seule fille qui pourra être tueuse à la fois. Elle a dit bah ça c'est de la merde, et ma pote elle est sorcière, et c'est une sorcière beaucoup plus puissante que ces vieux connards il y a 1000 ans.
Voilà.
Donc elle va faire en sorte que toutes les tueuses qui viennent au monde, partout dans le monde, puissent avoir le pouvoir et puissent me filer un coup de main, en gros, c'est ça l'idée.
Mais c'est même pas que les tueuses, c'est genre les femmes qui... Enfin, il y a quand même un message aussi de les femmes qui... Parce qu'en gros, elle dit, ouais, ces mecs qui ont décidé pour nous, et les démons et tout, maintenant on va les écraser, on va activer la tueuse qui est en nous. Mais il y a aussi, pendant ce passage-là, il montre par exemple une femme, et elle dit partout dans le monde... Et du coup, à un moment donné, on voit une femme en train de se faire battre par quelqu'un. Et du coup, au moment où elle active ce pouvoir, on voit qu'elle reprend le dessus et elle reprend le dessus physiquement sur la personne. Et genre, c'est hyper fort comme message. En mode mais en plus, c'est pas dit avec des mots genre cachés quoi. C'est genre, venez qu'on vous écrase,
on va vous tuer.
Tueuse dans chacune d'entre nous, on va vous tuer. On va vous tuer. Enfin, voilà, cette femme est plus puissante que tous ces hommes réunis. Enfin, vraiment, c'est
fort fort, quoi. En vrai, la résolution de l'épisode, et ça, c'est chouette aussi, et ça montre un peu l'évolution du personnage de Willow, mais l'épisode se gagne que grâce à Willow. Sans Willow, il n'y a pas de tueuse partout, en fait. Il n'y a pas ce pouvoir qui est réparti, il n'y a que Buffy. Et Buffy, au moment...
Buffy et sa hache, pardon, la hache magique.
Ah oui, la hache magique qui coupe les mecs en deux, c'est incroyable. Buffy, au moment où Willow active le pouvoir chez les autres tueuses, elle vient de se prendre un coup assez sérieux. Elle s'est fait transpercer de bite quand même, c'est pas rien. Et elle est au bout du rouleau. Et en fait, elle se relève par la force de... Bon, ça, cette scène est un peu cliché, mais tu sais, vous savez, le fameux relevé héroïque du personnage principal qui s'est pris un coup, mais qui, grâce à la force unique de son caractère, arrive à se redresser en slow motion en plus.
Elle a la force de ses sœurs là aussi, enfin oui. De ses sœurs au sens large, quoi, de toutes les filles qui se battent autour d'elle.
Elle se relève parce que toutes les autres sont en train activement, elles se continuent à se battre et elle se rend compte qu'elle aussi il faut qu'elle se batte. Et d'ailleurs elle le dit, la dernière parole qu'elle dit c'est vous allez tous dégager et ouais. Nous laisser en paix en fait, enfin genre faire ce qu'on veut. Et l'épisode serait pas possible et serait pas enfin victorieux pour le côté du bien si Willow avait pas ce pouvoir fou de donner les pouvoirs des tueuses à tout le monde, quoi.
Si Willow ne devient pas Gandalf à un moment donné,
quoi. Ouais,
elle a les cheveux tout blancs, tout.
Elle devient un peu Willow la grise. Et c'est assez incroyable. Mais du coup, cet épisode voilà, tourne autour du combat final et du fait que pour Buffy, il y a des gens qui se sacrifient, donc Spike, Anya et tout. Mais qu'à la fin, Buffy, en gagnant contre les vampires et contre les forces du mal, ne gagne pas juste ce combat bien et mal, mais gagne aussi le droit d'avoir une vie normale.
La paix, quoi.
C'est ça. Maintenant qu'elle n'est plus la seule tueuse au monde, elle peut être un peu tranquille ou pipou de se dire, il y a d'autres meufs qui vont prendre leur lait quand j'ai envie d'aller au Cinoche, quoi. Genre, je suis pas obligée de m'astreindre à être tout le temps prête.
Et elle est libérée aussi de... Enfin, moi là, je suis en train de relire mes notes, mais il y a quand même un sacré... Girl power très affirmée, quoi. Elle est aussi libérée de ses relations toxiques, là, que ce soit avec Angel et Spike, bon, on en reparlera des deux là,
ouais.
Qui sont la guéguerre et qui sont relous. Elle est juste là avec ses potes et puis finito, quoi. Enfin, ça fait. Oui. Et ça commence d'ailleurs, cet épisode il commence où il y a Caleb, un méchant, je sais pas qui
c'est. Oui, c'est le bras droit de la force, ouais. Je crois.
C'est un méchant déguisé en prêtre.
Oui. Oui, c'est vrai.
Et genre, elle a sa hache, et Caleb lui dit, tu n'as pas les... Et je vous laisse finir, il peut pas finir sa phrase, parce qu'elle lui fout un gros coup de hache dans, justement, les couilles.
Ouais, c'est vrai.
Et elle répond, on a les mêmes qualités là-dessus.
Ouais.
En lui foutant le gros coup de hache.
Là, c'est incroyable.
Et elle le coupe en deux, quoi.
Elle le coupe en deux en montant sa hache. C'est pas très pratique, mais c'est assez rigolo.
C'est hyper drôle.
Et on le voit pas, mais on comprend tout ce qui se passe. Hein. C'est...
Mais oui, et après, elle... Enfin... Elle a l'air, moi j'ai l'impression que dans cet épisode elle est saoulée par les mecs, quoi. Genre, chaque mec qu'elle rencontre, c'est genre, soit je le découpe en deux, soit vas-y,
donne-moi un bijou, casse-toi. Ouais.
Oui, merci pour le collier, super.
C'est sympa le collier, maintenant tu peux partir.
Parce que les deux lui font des crises quand même, Angel et
Spike. Ah ouais, non, c'était. Bah, Angel vient, donne son truc et disant ah bon, maintenant tu sors avec Spike, mais c'était moi le premier vampire.
Sens ton odeur sur toi vraiment comme un.
Un chien.
Un chien, quoi.
Un chien.
Un chien. Et attends, mais est-ce que c'est à ce moment-là où elle fait son speech sur la pâte à gâteau, là?
Ah non, c'est après. Ah ouais, c'est horrible. En gros, ça par contre, c'était... Effectivement, t'as raison, c'est pas mal ce que t'es en train de dire sur le côté, elle se libère de toutes les relations toxiques, au-delà, grâce au pouvoir de l'amitié et de la sororité, parce qu'en fait, c'est ça, elle sort de là. Littéralement, l'image de fin, c'est Buffy devant Sunnydale qui a été engloutie par la destruction du trou des enfers, parce que en fait faut imaginer que Sunnydale était parcouru de catacombes, de circuits souterrains creusés et tout, donc quand vous faites péter un truc souterrain, ça effondre complètement la ville. Et donc en fait l'image de fin, c'est Buffy et ses potes, il y a que ses amis en fait, il y a pas du tout d'autres personnes, ce sont ses amis qui sont avec elle et qui regardent la ville en disant maintenant c'est bon, on est tranquille, quoi. Et donc effectivement elle est libérée du poids de ses relations.
Et elle a une... Est-ce qu'il faut faire ça chaque fois pour libérer tes relations?
Alors, s'il faut tuer tout le monde, non.
Est-ce qu'il faut mettre
une ville
et être face à un gouffre?
Ça
et
rien.
Avec tes amis quand même.
Tes amis et toi,
t'en as perdu gouffre. Un ou deux dans la route.
Ouais, mais c'était pas des amis auxquels on
était. Mais il y a toujours. Il y a toujours l'autre là.
Xander.
Xander est toujours là, t'inquiète, ton pote un peu relou. Tu
mais c'est ton pote quand même. Et puis de manière assez symbolique, la série commence au lycée et se termine au lycée, donc ça c'est plutôt cool.
Qui n'existe plus.
Mais... Bah du coup il y a plus de lycée, mais voilà. Donc elle est libérée de toutes ses relations toxiques et effectivement elle fait un speech dans ce sens où elle explique à Angel qui est là au début de l'épisode et qui lui a donné ce fameux collier et tout et qui vient lui taper une crise en mode ah bon tu sors avec Spike, bah, franchement il est pas du tout original, avoir une âme et tout, bouh, c'est saut 2010 quoi.
Avec ses cheveux blonds là. Ah ouais, c'est vraiment honnête, vraiment... là genre mais les frères, quoi.
Et les gars, vous avez plus de 200-300 ans et vous êtes en train de taper ça, bref. Et du coup, elle lui explique via une analogie un peu foireuse, je trouve, mais bon.
Ah non, mais carrément foireuse.
Oh là là, c'est horrible. Elle est en train de lui dire, j'ai un peu réfléchi sur mes relations amoureuses et tout, et je me suis toujours dit que c'était moi le problème. En fait, non, c'est pas moi le problème. C'est... Alors, je vous la fais... J'aurais préféré la dire autrement, mais je vous ressors l'analogie pour que vous l'ayez bien en tête. Elle explique qu'elle est comme une pâte à gâteau. En anglais, c'est cookie dough, la pâte à cookie. Elle est pas fini... elle a pas fini de cuire. En gros, elle est encore crue, et le temps qu'elle aura pas fini de cuire, et bah, elle pourra pas découvrir qui elle est vraiment. Et chaque nouveau combat, chaque nouvel obstacle sur son parcours, c'est... de la cuisson qui augmente, en gros, entre guillemets, enfin genre c'est un temps de cuisson qui augmente, et tant qu'elle est pas cuite, elle pourra pas être avec quelqu'un. Moi j'aurais dit ça autrement, j'aurais exprimé ça de manière différente.
Parce que vraiment, après, je suis de la pâte à gâteau, peut-être que je serai cuite un jour. Vraiment, elle dit cuite. Elle nous, on était là, putain, c'est chaud quand même.
Tu aurais pu dire plein de choses, genre je suis pas
encore construite. Et je serai un gâteau, elle a dit.
Et je serai un gâteau une fois. Non mais horrible. C'est-à-dire qu'en VO, elle dit, je serai un cookie.
Vas-y, alors que la pâte à cookie, excusez-moi, mais c'est quand même très bon.
Oui,
et même quand on fait une glace.
Voilà.
Oh oui, c'est vrai ça. Bah, ouais. Incroyable.
Donc oui, l'analogie n'est pas très heureuse, mais le message est quand même intéressant. Elle fait comprendre que ses relations foireuses avec les mecs, c'est pas de sa faute, c'est vraiment les circonstances. Ben, en fait, c'est ça, c'est le milieu et les circonstances qui influent sur ton développement et sur ta construction.
Et ses choix, hein, parce que je crois qu'elle parle de choix de mecs quand même.
Oui.
Ou alors c'est moi qui suis biaisée là-dessus.
Peut-être.
Mais quand même, quoi, tu sens qu'elle est là, pff, allez, vas-y, vous me saoulez, là.
Bah, c'est important pour elle, quoi, genre... là, elle est arrivée à un stade, et on voit vraiment aussi l'évolution du personnage de Buffy, de se dire... elle a compris qu'elle avait eu des relations amoureuses quand même fortes, on peut pas enlever ce qui s'est passé avec Angel, on peut pas enlever ce qui s'est passé avec Spike, etc. Et avec d'autres mecs, je crois qu'elle a eu d'autres copains entre-temps, mais je sais plus qui... Et on peut pas lui enlever ça, mais là elle arrive à un point où elle dit bon bah j'ai même plus besoin d'être avec quelqu'un pour exister, et ça aussi c'est assez rare pour être souligné, je pense. J'ai pas besoin d'être avec quelqu'un pour exister en tant que femme, genre là juste je suis pas prête pour être avec quelqu'un, et du coup je suis bien toute seule et je vais continuer de cuire.
Je vais continuer de cuire.
Cette analogie me fume, je vous jure, c'est horrible.
Et pendant ce temps-là, t'as Angel qui fait son caca nerveux. De gna 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 gna. Bon, prends le collier quand même. Attention, le collier, il faut qu'elle le donne à un champion. C'est vraiment le mot utilisé.
Oui, champion. C'est vrai, un champion.
Genre, un champion. Et donc...
Après, c'est... Ouais. J'allais dire là en anglais, c'est champion aussi. Et champion, c'est pas genré. C'est pas masculin ou féminin. C'est genre... Et puis tu dis ça... I'm going to champion you, c'est genre je vais être ton celui qui va t'aider, celui ou celle qui va t'aider à faire un truc. Donc je pense qu'il y a une traduction là qui est peut-être pas très heureuse.
Mon petit champion.
Oh voilà. Moi, ça me fait penser au sketch du Palmachou.
Voilà.
Champion. C'est ça. C'est incroyable.
Mais elle prend donc cette amulette de champion.
Et c'est bon, j'ai en tête, c'est mort.
Et elle va voir Spike qui fait la même en mode gna gna gna, tu sens Angel. Nan,
et c'est lui qui t'a donné ça, bah j'en veux pas. Voilà. Gna gna.
Il était en train de taper dans un sac de frappe où il avait dessiné la tête de Angel.
Oh, ah oui, cette photo
c'est
est incroyable.
Très drôle. C'est très drôle parce que c'est
une caricature incroyable en plus parce que c'est juste la tête avec les cheveux en épi comme Angel a. Deux petits crocs de vampire et des yeux en croix, comme s'il était mort et tout, c'est
n'importe quoi. Et là, et en fait, et moi ça aussi ça m'a tué, genre il dit et tu sais qui se teint les cheveux? Genre,
t'es là. Tous les deux parlent des cheveux de l'autre.
Gamin. Et elle, tu vois, elle est saoulée, genre oh là là.
Foutez-moi la paix!
Mais en même temps, elle nie pas qu'elle l'a embrassé, elle nie rien quoi. Ah, elle s'excuse pas et elle s'explique pas, elle est genre. Ouais, bah je l'ai embrassé.
C'est, je l'ai embrassé, c'est un baiser d'adieu, voilà.
Et après, Ken avec Spike, et puis...
On le voit pas, ça. Je sais pas si Ken, d'ailleurs. Ils dorment ensemble, mais elle est pas changée, elle est pas déshabillée, ils sont tout habillés, quand même, à la fin.
Ouais, mais elle a les cheveux détachés, ils sont les bras dans l'un de l'autre dans le lit.
Ouais, mais ils ont pu faire un petit câlin.
Bon, peut-être un câlin.
Ouais, ils ont dû faire un câlin, parce qu'ils sont quand même très habillés.
Et quand même, elle lui donne l'amulette de champion.
Oui.
Son champion.
La chouette. Mais du coup, c'est quand même... Là, elle fait clairement son choix, elle montre clairement que Angel c'est du passé et que Spike c'est plus celui vers lequel elle tend actuellement. Et pourtant.
Pourtant, elle tend plus vers elle-même, quoi.
Et pourtant, elle va se choisir elle-même au final parce que quand je vous disais, Spike se sacrifie à la fin et tout, il, c'est son arc de rédemption ultime parce que il fait quand même vivre des trucs à Buffy. Moi, je pourrais jamais kiffer cette relation parce qu'elle est toxique dès le début et c'est très violent et tout. Mais quand il acquiert une âme et qu'il essaye de d'être dans le la rédemption auprès de Buffy, etc. Là, c'est la fin ultime de cet arc où en fait, il va sauver de sa vie Buffy et tous ses potes. Et Buffy, il est en mode non, viens avec nous, pars avec nous et tout. Il dit non, non, je vais rester là. Elle lui dit je t'aime, mais après elle s'en va.
Ouais, mais au-delà de ça, là j'ai vérifié pendant que tu faisais le résumé tout à l'heure.
Ouais.
Il a dit, genre elle lui dit je t'aime, et en fait il répond bien c'est pas vrai, mais merci de l'avoir dit.
Il lui dit c'est pas vrai.
Ouais.
Ah, j'avais pas entendu
et
ça.
Mais j'ai vérifié là. Ouais. Parce que j'étais absente, je suis presque sûre que c'était ça. Et en fait, il a raison.
Oui.
Il est assez lucide sur le fait que... Bah oui, elle s'est accrochée peut-être à lui pour... Mais en fait, vas-y, t'es trop toxique pour qu'on t'aime, quoi.
Bah, et puis lui, le fait de choper une âme, s'il a pu se rendre compte de ce qu'il avait fait, c'était pas, c'était pas ce qu'il fallait, et que là, elle avait besoin de s'aimer elle en priorité, c'est une bonne chose aussi, quoi.
Mais donc voilà, il meurt. Moi, ça m'a... C'est quand même, c'est un petit peu triste, cette mort.
J'avoue que moi, c'était très anticlimatique pour moi, parce que je savais déjà qu'il mourait. Après, j'ai bien lu 2-3 machins, 2-3 textes avant le regarder l'épisode, et puis à un moment, j'ai cru comprendre qu'en fait, non, il était pas vraiment mort. J'étais là, en mode, bah mince, c'était pas le souvenir que j'avais. Et puis non, il est bien mort, hein, y a pas de problème là-dessus. Donc anticlimatique pour moi, parce que je le savais déjà, et j'ai presque eu envie de dire, c'est normal.
Mais oui, c'est normal. Mais en fait, je crois que ce qui me rend triste, c'est quand elle lui dit au revoir. Oui. Je trouve ça terrible. Elle sait qu'il va mourir. C'est horrible, quoi. Genre, elle sait qu'il va mourir et elle doit partir.
Ouais.
C'est horrible comme moment.
C'est horrible. Et en même temps, tous les deux, ils disent au revoir de la meilleure des manières. Genre, elle lui dit je t'aime pour lui faire plaisir. Et lui, il lui dit non, mais je sais que c'est pas vrai. Et ça, c'est cool de...
Merci de l'avoir dit.
Ça, j'avais vraiment pas entendu ça, donc c'est trop cool que tu l'aies relevé.
J'avais des gifs, là.
Bien, ouais.
Je sais que tu ne m'aimes pas, mais merci de l'avoir dit.
C'est beau.
No, you don't, but thanks for saying it. Voilà. Et ah, il brûle cool. À la fin.
Oui, après, il meurt décomposé. Il y a eu une légère amélioration, quand même, des effets spéciaux au fur et à mesure de la série.
Ouais.
Je trouve. Cet épisode, il marque bien la fin... Pour moi, il conclut bien la série de Buffy parce que déjà, ça laisse peu ouvert la porte à un sequel ou un reboot. Alors, je dis ça maintenant, mais il y a moyen qu'ils trouvent quelque chose pour rebooter la série ou pour en faire un sequel. Parce que de toute façon, maintenant, toutes les séries des années 90-2000, c'est reboot. Qu'est-ce qu'il y a ?
Pardon.
T'as découvert un truc ?
Mais oui.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Spike, come back to life.
Ah ! En fait, si, il est pas mort.
Putain. Voilà, la mort et la résurrection... De Spike non plus aucun. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Spike est-il vraiment mort à la fin ?
Ah, mais c'est des questions, ça, les gens savent pas.
Spike est ressuscité dans le premier épisode de la saison 5 d'Angel.
Putain,
c'est
mais
ce
j'avais
que tu
raison
disais.
Ah, mais ça me saoule.
Sous la forme d'un fantôme lié à la... D'un fantôme, pas d'un fantôme, n'importe quoi, ça ne veut rien dire. D'un fantôme lié à l'amulette.
Ah.
Après bien des péripéties, il est finalement capable de sortir de Los Angeles pour retrouver Buffy, mais décide de ne pas le faire, car il pense qu'elle n'appréciera pas.
Oui.
Ça rappelle. Et il y a un extrait vidéo, voilà.
Ok.
Ah là 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 là. Bon, c'est un fantôme, mais en tout cas, ben voilà, ils ont voulu faire un duo Angel
oui.
Spike évidemment.
Mais c'était quand même pas mal de le faire mourir, c'est propre.
Genre. Ouais. Et qu'ils reviennent pas aussi dans la vie de Buffy.
Ouais, c'est une bonne
c'est
fin.
C'est pas mal aussi.
Bah du coup, ouais, j'espère vraiment qu'ils feront pas de reboot ou de sequel de ça, parce que on a pu voir ce que ça donnait les reboots des séries des années 90. Genre Charmed a eu un reboot. Ça a duré 2 saisons, je crois. En même temps, là qu'on a fini la série, et qu'officiellement, l'épisode, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus.
Si, attendez, parce que juste, on vous a dit, genre, le Seigneur des Anneaux, on vous en parlera plus tard.
Ah oui.
C'est juste au moment donné où ils ouvrent la bouche, là,
des
enfers. Et ben, il y a tous les petits démons en bas, et vraiment, ils grimpent au mur et tout, comme les orques.
Dans le gouffre de l'air.
Voilà, partout. Et ça faisait comme Seigneur des Anneaux. Et dernière chose aussi, il y a une phrase que j'ai bien aimée, quand Willow, elle finit de faire son tour de magie là en mode Gandalf, sa copine, elle était là, elle vérifiait que tout se passait bien et peut-être elle allait tuer Willow si ça se passait mal.
Ah oui, c'est vrai.
Et elle lui dit, sa copine dit à Willow, t'es une déesse, et l'autre lui répond, et toi t'es une tueuse. Mais c'est trop beau.
Ah voilà. Oui, c'était, il y avait une vraie tension sexuelle là. C'est... Ouais, là, incroyable. Déchampez-vous. Alors on sait que vous n'avez pas le temps. Mais
quand même, il va falloir y penser après.
Il y a moyen qu'il faille régler cette tension à un moment. Il va falloir vraiment bosser dessus.
Mais c'était trop beau comme moment.
Mais voilà. C'était incroyable comme moment parce que de là, tu sentais vraiment genre bah, de l'amour entre les deux. C'était.
Ah ouais.
C'est vrai que c'était beau.
Elle est trop cool, sa nouvelle copine en plus.
Ouais, une tueuse en plus. Incroyable. Là, on n'a plus rien à dire sur l'épisode.
Voilà, c'est bon.
Du coup. On peut faire un petit résumé plus complet de la série et de ce qu'on en pense et de quoi et de qu'est-ce et de vas-y commence.
Moi je pense que c'était parmi les trois séries qu'on a fait celle que j'ai préféré revoir et qui m'aurait pas dérangé de continuer des trucs. Pourquoi? Parce que certes ça suit un chemin un peu comme Charmed aussi où il y a un méchant nanana et ça se passe comme ça. Mais il y a quand même plus de rebondissements, plus de trucs. Plus d'imprévus, voilà, plus d'originalité des fois, pas non plus de ouf, hein, mais il y a quand même des trucs où des fois on s'y attend moyen. Là, il y a quand même la copine de Xander qui se fait couper en deux, on s'y attend pas du tout.
Quoi. Ah oui, non, c'est vrai.
Et Buffy qui se fait planter, mais bon, on sait qu'elle ressuscite toutes les 3 minutes. Donc, donc voilà, bon, mais va. Juste. Ouais, il y a des. C'est moins.
Cucu la praline.
Cucu que Charmed, même si j'ai beaucoup aimé Charmed aussi, mais. Et le côté sororité, fille forte et tout, est très assumé quoi dans ce dernier épisode en mode... Et puis c'est pas à moitié, genre venez, on va faire, tu sais, genre doux et tout. C'est vraiment genre, mais en fait là, stop, c'est la vengeance, c'est le...
On va tous vous tuer.
Voilà, c'est reprendre son pouvoir et tout, et je trouve ça hyper cool et... novateur pour l'époque et assumé comme le côté avec les couples lesbiens pareil c'est hyper assumé quoi et c'est ouais ça m'a fait du bien et tout n'est pas tout ne finit pas tout rose quoi alors que la fin de Charme est très est quand même assez voilà
gnangnan
assez gnangnan alors que là il y a eu des morts. Bon, bah, voilà, quoi, et la vie continue quand même.
Ouais.
Mais, ouais, j'aime bien cette série. Bon, il y a quand même des trucs problématiques, on va pas se dire. Hein. Les répliques de Buffy, moi, ça me fait mourir de rire, mais ça fait péter un câble à Fanny. Je lui ai dit, est-ce que tu préfères que je fasse une compile de toutes les répliques de Buffy ou vidéo gag?
Vidéo gag.
Elle préfère vidéo gag, c'est pour vous dire.
C'était pas gagné, hein, mais non, non, c'est sûr.
Mais ouais, moi, ça m'a fait plaisir et je suis contente d'avoir revu quelques épisodes de cette série. Et toi?
Je te rejoins sur le fait que parmi les trois séries qu'on a vraiment revues cette saison, parce que cet épisode marque la fin de notre première saison de podcast quand même, faut qu'on parte en vacances un jour. Des trois séries qu'on a vraiment étudiées en profondeur, enfin plus en profondeur que ce qu'on fait avec ma sœur, c'est celle que j'ai pris le plus de plaisir à re-regarder, notamment grâce à ces deux derniers épisodes. J'avoue. Ouais. Parce que vraiment, alors, c'est peut-être parce qu'on les a pris dans les dernières saisons et qu'il y a eu une vraie évolution des personnages et de l'écriture. Mais c'est celle, effectivement, qui propose le plus de variations dans les scénars, d'exploration de différentes thématiques. Enfin, il y a quand même des sujets traités, j'ai un souvenir assez vague, mais et on le touche à peine du doigt dans l'épisode musical qu'on a traité dans le podcast de la précédent. Mais la dépression que fait Buffy quand elle revient à la vie, quand on la ressuscite, et le fait qu'elle soit consciente que c'est une chance, mais en même temps elle l'a pas choisi et tout, ce truc-là, je me souviens que c'est assez lourdement traité quand même, et que c'est pas du tout négligé, qu'on parle de sa dépression vraiment comme une dépression. Et voilà, elle veut plus se battre, elle veut plus manger, au début, moi je me souviens, elle est amorphe.
Et c'est des sujets qui m'avaient un peu marqué. Et je trouve ça cool qu'ils aient traité tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est une des séries où j'aurais pu regarder, comme toi, 2-3 épisodes supplémentaires. Après, il y a des défauts qui font que... Comme j'ai pas d'attache sentimentale particulière à cette série, bah, je ne vois que ça. Vraiment, moi, les répliques... Alors, par contre, je trouve qu'il y en a beaucoup moins dans les dernières saisons que dans les premières.
Ouais, dans les premières, c'était au moindre combat. Y avait
là, c'est beaucoup plus dosé. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé le juste milieu, qu'ils se sont trouvés, en fait, en équilibre. Et en plus, il y a des personnages intradiégétiques, comme Faith, qui est une des tueuses qui est formée dans les derniers épisodes. Les fans de longue date nous diront Faith apparaît plus tôt dans l'histoire, mais nous, on va pas rentrer là-dedans. Faith, littéralement, le dernier épisode, quand tous les potes là, de Buffy sont devant le gouffre laissé par Sunnydale et ils commencent à faire des trucs genre « Oh non, on a cassé les magasins et tout machin », elle est là, elle dit « Je peux les pousser dans le... Ah, ça se passe comment ?» Genre, Faith, c'est moi. Genre, littéralement, et je trouve ça très cool d'avoir quelqu'un intradiégétique qui fasse ce genre de remarques et qui exprime un peu la frustration de certains spectateurs. Je pense pas être la seule qui, des fois, devait être rouler les yeux au ciel en se disant « Mais non, mais pas maintenant, mais arrête, mais ferme ta gueule, enfin, oh, ne parle pas,
des coups de pied.
Coupe-lui la tronche et c'est marre, quoi, enfin voilà. » Et je trouve ça très cool d'avoir ajouté ça.
Et sur Faith aussi, juste, ouais. C'est aussi une fille, une femme forte et tout, qui a une grande gueule et tout, et qui assure, enfin... Le côté sexuel, parce qu'elle a une espèce de tension sexuelle avec un autre personnage, est hyper assumé, mais genre, à un moment donné, il fait genre, ouais, je suis plus sexy que toi et tout, et puis il sous-entend que c'était sympa de coucher avec elle, mais c'était pas
sans
non
plus,
plus
quoi.
Sans plus. Et genre, elle commence à déboutonner son pantalon en mode, alors là, pas du tout, non, mais genre vraiment la compétition, je vais te montrer et tout de quoi je suis capable. Elle déboutonne son pantalon. Et genre, vraiment, c'est hyper assumé ce truc-là, et pour une femme dans les séries de cette époque,
ouais.
Ça fait trop du bien, tu vois. Genre.
C'est drôle en plus.
Genre, oui, les femmes aussi ont envie de Ken, figurez-vous.
Mais surtout que c'est drôle. C'est vraiment pas fait du tout comme étant un truc caché, gênant, dégueulasse et tout. C'est juste. Voilà, là, il lui a lancé un défi. Elle est là, elle relève. Elle est là pour relever.
la compétition.
Elle a pas de time en fait. Et là, non, attends, on va faire ça bien. Laisse-moi le temps de te surprendre et tout. Lui, il est pas contre. Juste pas là. Ils sont en train de buter des vampires. Il y a autre chose à foutre. Mais.
La compétition, hein, comme Amélie.
Je me mets pas à poil le manteau.
Non, mais la compétition, genre. Et tu vas perdre à ça. Pardon.
Non, je perds pas, moi.
Ça m'est jamais arrivé, en fait, de perdre à quoi que ce soit.
C'est faux. Je perds des trucs, mais si je sais que je vais perdre, je me lance pas dedans.
Je joue pas, je fais genre, j'aime pas ce jeu.
C'est pas un vrai jeu, de toute façon, c'est nul. C'est ce qu'on dit dans ma famille quand tu perds pas un vrai jeu. Ça. C'est pas un vrai jeu, là, oh là là, je connais pas toutes les règles et tout. Donc oui, non, moi j'ai vraiment aimé et y a des choses en fait dont j'avais gardé un souvenir, mais j'ai une relation un peu de je t'aime moi non plus avec Buffy, où tout le monde était très fan quand j'étais jeune, mais je regardais pas, j'ai regardé plus tard et je n'ai pas gardé un souvenir de ouf. J'ai checké sur mon historique bêta série, apparemment j'ai regardé il y a 7 ans la série.
Ah ouais, tout?
Oui.
Oh punaise, mais toi t'es ouf.
Ouais, mais moi je binge watch quand c'est fini depuis un moment, comme ça je regarde tout d'un coup. Et je l'ai regardé il y a 7 ans, et il y a peut-être qu'il y a 7 ans il y avait des trucs que j'étais pas prête à lire, à voir, à entendre d'un point de vue contextuel, historique, social, etc. Il y a peut-être des trucs sur le combat féministe que j'avais pas, il y a peut-être des éléments de relations toxiques, pas toxiques que j'avais pas. Et en fait j'en avais gardé une appréciation très... Ouais, dans ma tête c'était bof, c'était médiocre.
Ouais, médiocre. Mais on passait de bof à médiocre.
Bah en fait, ce que tu disais tout à l'heure sur le format de la série, c'est une série à formule Buffy comme Charmed, c'est-à-dire un méchant par épisode, sauf exception rare, mais globalement c'est ça. Un méchant par épisode, un fil rouge par saison.
Ouais.
Et chaque épisode, c'est pas un reboot à zéro parce que les personnages évoluent, mais on peut regarder un épisode comme ça de manière ponctuelle et on va quand même s'y retrouver.
Voilà.
Et je pense qu'à un moment je l'ai consommé comme étant la façon dont je l'ai regardé, comme c'était du binge watching, je l'ai consommé et j'ai pas apprécié les épisodes parce que j'étais là pour les finir, quoi.
Ouais, ouais.
Et le fait de retrouver toujours la même arc narratif, ça m'a gonflé. Peut-être que c'est ça qui a pas aidé Là, j'ai un regard un peu plus positif sur la série et je comprends que des jeunes filles, des jeunes femmes, quand on était jeunes, aient pu s'accrocher profondément à ce personnage.
Quoi. Mais je pense que c'était... Enfin, dans le monde des séries qu'on avait, qui était soit de la série... dans le monde des femmes représentées dans la série, t'avais de la série d'amour, beaucoup. Il y avait...
Il y avait Xena la guerrière.
Ouais, mais alors ça, c'est plus vieux, non?
Je sais pas. Faudrait qu'on fasse un pour épisode avec Xena. Pour
moi,
c'est plus
vieux. Et moi, je connais même pas. Pour moi, c'est mes parents.
Parce que Xena, pour moi, il y a des gros sous-entendus lesbiens de ouf, ça passe là-dedans. Et que ça a beaucoup marqué la télé aussi, parce qu'il y a quand même des trucs... Puis elle se bat de ouf, Xena. Xena la guerrière, quoi. J'aimais trop regarder, mais ça passait un peu avant Stargate. Donc je me souviens...
Ah oui, mais Stargate, c'était quel jour, ça?
Alors là, par contre, je ne me demande plus. Moi, je l'ai poncé quand c'était sur Energy 12 et après, j'ai tout regardé, mais des milliards de fois.
M6, je sais plus quel jour. Bref, moi, j'avais 7 à la maison, un peu Stargate, mais j'étais pas hyper fan. Mm. Non, 7 à la maison, les frères Scott, on avait quoi d'autre? Charme.
Ouais.
Bref, et puis, enfin...
Ouais, mais dans les séries ado-ado... Je vois ce que tu veux dire, genre les frères Scott,
ça tourne beaucoup.
Newport Beach.
Ouais, c'est toujours des histoires d'amour, quoi, c'est ouais. Toujours ça. Et là, bon, moi j'avais pas regardé Buffy comme je l'avais dit parce que ça me faisait peur, mais, mais d'avoir cette opportunité, même si c'était tard le samedi soir, il y avait quand même cette opportunité d'avoir des séries où les meufs, elles étaient pas que là pour faire des histoires d'amour et chialer sur le basketteur du coin, quoi.
Frère Scott, bonjour.
Ouais. Mais j'aimais beaucoup les Frère Scott.
Bon, jamais regardé.
C'est vrai?
Je connais vite fait les persos, mais j'ai jamais regardé. Mais ça fait partie des séries. Oui, par contre, le générique, il est assez iconique.
Oh, c'est incroyable. Tu le passais pas, enfin de toute façon je pouvais pas le passer, j'avais peut-être dit.
Mais non, c'est vrai. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est ce côté où ton perso principal il est construit par d'autres choses que des relations amoureuses.
Voilà. Et elle est forte, elle se bat.
Et après, alors est-ce que c'est une thématique tout le temps chez Josh Whedon, je crois. J'ai pas envie de trop m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas vu l'intégralité de sa filmographie ou de sa sérigraphie. Mais il me semble que l'amitié chez lui c'est quand même un thème important. Enfin, il a réalisé, alors c'est la série, c'était Firefly. Ça c'est les frères Scott.
Je commence à être fatiguée, du coup j'ai ça
en tête.
Ouais, Josh Whedon, il a fait Angel, Firefly.
Ouais, c'est Firefly, tu vois.
Serenity, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est le film. En gros, Firefly c'était c'est devenu une mini-série. Qui a gagné beaucoup de fans a posteriori, c'est quand elle a été diffusée, il n'y a pas eu trop de gens fans, et puis après ça a gagné en popularité après, comme beaucoup d'œuvres d'ailleurs, c'est rigolo. Elle est devenue culte, et donc il y a eu un film pour conclure la série. Le film c'est Serenity, si je dis pas de bêtises. Et Firefly, du coup, dedans c'est des potes, pareil, il y a des relations amoureuses, mais c'est des potes dans un vaisseau spatial, je sais plus combien de temps dans le futur. Il leur arrive des trucs, hein, ils se baladent sur des planètes et tout, mais. Globalement, il y a une bande de potes. Josh Whedon, après, il réalise le premier Avengers où c'est un groupe. Il y a des gens, quoi.
Ouais, je regarde là, mais...
Et j'ai l'impression que c'est quand même une thématique dans sa filmo où les groupes de gens qui ont des relations plus ou moins amicales mais qui doivent interagir entre eux sans spécialement interagir pour des objectifs amoureux, c'est relativement présent quand même. J'ai l'impression. J'ai jamais vu Angel. Donc je peux pas confirmer avec Angel. Mais Buffy, c'est le cas, parce que le noyau dur de la série, c'est des potes.
T'as jamais vu Angel?
Non.
Moi non plus, mais pas trop.
J'ai jamais vu Angel. J'adore.
Je comprenais pas, en fait.
Et pourtant, j'adore David Boreanaz, mais... J'ai regardé Two Bones après avec lui.
Tu sais, en fait, je crois que j'avais une incompréhension d'Angel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette série? Mais parce que j'avais jamais regardé Buffy au-delà du générique. Comment voulez-vous que je comprenne?
Ah, bah oui, confusion.
Du coup, je comprends pas cette série. Qui c'est, lui?
Ce monsieur là-bas?
Et puis, ça devait être tard aussi. C'est possible. Je crois que c'était quand même moins tard que. Il y a une autre série qui était tard sur le samedi soir. C'était. Ah, avec deux frères là qui se battaient contre des démons.
Supernatural?
Ouais!
Ça, c'était bien.
Ça, c'est plus tard, par contre.
Ouais, c'est un peu plus tard, mais c'était tard.
Oui.
C'est attends, c'est plus tard dans le temps ou c'était tard dans la soirée?
Et c'est un peu plus tard dans le temps.
Et un peu plus tard dans la soirée.
Parce que Supernatural, moi j'en ai regardé 10 saisons, je crois, sur les 15 ou 16 qui sont passées. Là. J'en ai un souvenir très vague parce que c'est pareil, c'est des formules. Il ouais. y a beaucoup de trucs qui reviennent tout le temps la même chose. Puis j'étais... Je faisais partie à cette époque-là. Attention, instant honteux. Sur Tumblr, il y avait des fandoms, comme on appelle ça. Et j'étais dans le Super Woolock. En gros, tu regardais Supernatural, Doctor Who et Sherlock. Et tu regardais les trois. Et dans les trois, t'avais des relations homosexuelles ou gays sous-entendues de ouf. Enfin, tout le monde trouvait son compte là-dedans. Et il y avait la Supernatural qui était au cœur de ça. Et donc j'avais commencé à regarder. Parce que dans le fandom, tout le monde regardait. Et c'était pas mal aussi.
Moi, ouais, j'avais bien aimé. Hein.
Ouais, les démons étaient un peu plus réalistes.
Ça faisait peur un peu.
Bah, les histoires étaient un peu plus sombres que... Buffy, au final, le côté kitsch, il atténue un peu le côté trop poignant de la narration, je trouve.
Ouais.
Là, par exemple, la force, le démon, il est pas représenté. On nous montre... En fait, la force a une capacité, dans l'épisode qu'il nous a expliqué, c'est qu'il peut prendre l'apparence physique de n'importe qui, et il apparaît que pour la personne qu'il choisit. En gros, il est une projection mentale.
Ouais.
Et il vient vous tourmenter. C'est comme ça que pendant la saison 7, quand Spike vient juste de récupérer son âme, apparemment la force vient le tourmenter en prenant l'apparence de Buffy plusieurs fois pour le torturer, quoi. Genre, ouais, elle t'aimera jamais, enfin voilà. Et donc la force n'a pas un visage démoniaque classique. C'est peut-être d'ailleurs le truc le plus terrifiant du monde, de se dire que ce qui te fait peur, c'est...
C'est toi-même.
C'est des gens que tu connais, ou c'est toi-même, ou c'est tes propres voix dans ta tête. Donc ça, c'est ouf. Et c'est un peu ce que Supernatural faisait, les démons, les... Alors il y a des épisodes pas du tout, mais... D'ailleurs je crois qu'il y a un épisode musical dans Supernatural.
Oh putain.
Il me semble.
Ce serait trop drôle.
Big up à notre précédent épisode de podcast, si vous l'avez pas écouté. Mais dans Supernatural, il me semble que c'est ça, les méchants, les démons, ils ont plus des faces humaines que vraiment démoniaques et facilement identifiables. Je crois que Charmed et Buffy, de ce côté-là, appartiennent à la même... génération où et puis la même génération américaine très binaire où il y a les méchants et les gentils et puis c'est très manichéen comme construction du monde et les méchants sont facilement identifiables. Tu doutes pas 30 secondes qu'ils sont méchants parce que c'est écrit sur leur gueule qu'ils sont méchants.
C'est comme les vampires, tu sais que c'est des vampires.
Bah, et du coup je pense que ces séries là elles ont été importantes pour plein de trucs. Mais d'un point de vue narration, elles allaient pas hyper loin et les méchants, ils étaient méchants, ils avaient des têtes de méchants et puis ça a été écrit sur eux qu'ils étaient des méchants. Alors que Supernatural, ils allaient un tout petit peu plus loin, il me semble.
C'était vraiment de l'horreur, c'était voulu comme de l'horreur.
Bah, moi, je me souviens des premiers épisodes où ils expliquent comment leur mère, elle est morte aux deux frères, là. Tu te souviens de ça, pas toi?
Non.
Elle est morte brûlée par un démon et au plafond, et donc en fait en gros si tu vois son corps se faire cramer alors qu'elle est au plafond et tout, c'est putain. Hyper impressionnant
et bonne nuit les enfants parce que c'était tard le soir.
Et mais par contre il y avait un côté le démon il avait pas de tête, enfin tu savais pas qui c'était, tu voyais la maman qui cramait au plafond mais le démon n'a pas d'apparence physique, il est pas ah c'est lui là-bas avec des cornes rouges très très moches.
Il fait moi.
C'est ça, tu vois. Alors que dans Buffy et dans Charmed, ils ont tous des tonnes de latex sur la gueule. Ils sont pas en bleu. Enfin, ils ont des têtes de Frankenstein. Des
têtes de requin. Au moment de... dans Buffy, un méchant qui est un requin et qui parle vraiment.
C'est incroyable.
C'est très très drôle.
Et tout ça, ça participe au côté un peu kitsch et rassurant peut-être aussi de se dire oh les méchants ils, dans la vie c'est facilement identifiable, ils ont des têtes de méchants.
Pour conclure, moi j'ai un dernier souvenir avec la trilogie du samedi soir là parce qu'on est là-dedans là.
Ouais.
Donc je regardais et genre on avait une télé dans notre chambre.
Incroyable.
Ouais, mais on était très disciplinés, on ne le regardait que le week-end.
Incroyable.
Ouais.
Est-ce que tu faisais ça parce que tes parents enlevaient le cordon d'alimentation?
Non. Parce qu'on aimait lire et que j'avais déjà des problèmes de sommeil à l'époque, donc je savais qu'il fallait pas que je regarde la télé.
Bien joué.
Voilà. Mais en gros, donc c'était une chambre sous les combles, donc il y avait un Velux et moi je gardais le Velux ouvert et je regardais et genre j'entendais, j'avais une pote qui habitait pas loin et j'entendais le générique de la série du samedi soir chez elle. Je sais pas comment vous expliquer, c'était un endroit pavillonnaire et genre voilà, l'été, t'es là le samedi soir, tu commences et là tu t'entends ce fameux générique.
Ouais.
qui est incroyable.
Ouais.
Et tu sais que ça va commencer et t'entends que ta pote, elle le regarde aussi et tu peux pas texter avec elle parce qu'on n'avait pas de portable.
De 3310.
Voilà. Mais juste. Et du coup, entre les pubs, on se parlait au Velux.
Oh, alors, c'est trop cool. T'as bien, hein. Ouais. Je sais pas, je regarde pas.
Tu regardes, hein. Et t'as entendu. Et hop, voilà, c'est tout. Parce qu'on pouvait pas non plus crier dans tout le quartier.
Pour réveiller tout le quartier qui, lui, ne regarde pas. Peut-être parce voilà. Que j'ai du samedi.
Voilà, ah. Bah, c'est mon instant de nostalgie avec la trilogie du samedi soir.
Eh bien, écoute, n'ayant pas d'instant de nostalgie avec la trilogie du samedi soir, peut-être que ce sera le dernier mot de cet épisode et de cette première saison.
Voilà, et on verra ce que... On va faire un quiz, ouvert ouais. Ou fermé.
Oh, on peut faire ouvert.
D'accord.
Pour demander la prochaine.
Ouais.
Ce qu'on fera à la rentrée. Oui, c'était
voilà. Clair. Et puis, bah, bonnes vacances. Hein.
Oui, c'est vrai. On va prendre un petit peu de vacances, nous aussi. Donc, cet épisode devrait être publié quand même dans le mois de juillet. Mais jusqu'au mois de septembre, il y a moyen qu'on soit en stand-by parce que bah, les vacances, quoi. Et puis vous, ça vous laisse le temps de réécouter tous nos épisodes que vous êtes déjà très nombreux et nombreuses à avoir écoutés.
Ouais.
Merci beaucoup de votre soutien. Ça, c'est chouette.
Voilà.
Voilà. Et en attendant de nouvelles aventures à la rentrée, eh ben, à bientôt.
Au revoir et dites-nous ce que vous voulez qu'on regarde.
Eh oui. Et on attend vos propositions avec impatience. Et on vous fait des bisous si vous en voulez. Ou sinon, on vous salue de loin.
Au revoir.